Bienvenue à l'émission qui déclare la race souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut, puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Mais pour ce message, le texte sera principalement centré sur les deux premiers versets de ce chapitre. Mais je voudrais vous parler de qui est un chrétien. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prennent le nom populairement, qui se disent chrétiens. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Que veut dire d'être un chrétien? Je crois que le Seigneur Jésus, à travers ce message qu'on appelle le sermon sur le mont et les béatitudes, nous donne ici les caractéristiques de ceux qui sont véritablement enfants de Dieu par rapport à ceux qui sont simplement des chrétiens en nom. Cela veut dire ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Il y a un monde religieux dans lequel nous vivons, et sur la surface, les gens aiment prétendre être enfants de Dieu, mais qui est véritablement un enfant de Dieu? Qui est véritablement un chrétien? Dans le mot chrétien, nous avons le nom de Christ. Et donc, qui appartient véritablement à Christ? Donc, nous lisons ici dans le verset 1 de Matthieu 5, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, ce sont les versets que nous allons contempler dans un prochain message. Mais pour cette fois-ci, considérons alors ceux à qui le Seigneur lui-même adresse ses paroles. Ces paroles sages venant de celui qui est véritablement la sagesse de Dieu. Des paroles spirituelles, celui qui n'est autre que Dieu dans la chair. Nous avons ici la prédication du Seigneur Jésus lui-même. Et c'est ce que nous voyons dans le premier verset, que le Seigneur Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Nous savons, selon les Écritures, que s'il y a des pécheurs qui s'approchent de Christ, c'est que ces pécheurs-là ont été attirés par Christ. Parce que la Bible nous dit clairement que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit déjà dans Jean 6, dans le verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, c'est la réponse à la question déjà, qui est un chrétien? C'est un disciple. Nous voyons ça dans le verset 1. Il avait ses disciples, mais des disciples que lui-même, il attire, lui-même, il appelle. Les disciples pour lesquels lui-même, il est venu vivre sa vie comme substitut, et puis donner sa vie dans sa mort pour accomplir la loi et la justice de Dieu à leur égard. Ce n'est pas tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus qui sont véritablement disciples. Nous savons cela encore à partir de ces versets que je viens de lire dans Jean chapitre 6. Parce que dans le verset 66, dès que le Seigneur Jésus leur a dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père, le prochain verset dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que ceux qui suivent le Seigneur Jésus et celui dont la Bible nous révèle, le Christ de la Bible, qui suivent et puis, après un moment donné, l'abandonnent pour suivre d'autres prétendants Jésus, parce qu'il y en a qui sont prêchés comme étant le Seigneur Jésus, mais quand on compare leur Jésus par rapport à celui de la Bible, nous devons conclure que c'est un autre Jésus qui est prêché, c'est un autre évangile. Mais il y en a qui abandonnent le Christ de la Bible et qui suivent d'autres Jésus, d'autres évangiles, ce qui est faux. Et donc ceux-là, nous pouvons conclure, n'ont jamais été véritablement disciples. Parce que ceux que Dieu lui-même attire, il attire pour toujours. Donc ça répond à cette question, qui est un chrétien? C'est celui-là que le Seigneur Jésus a reçu depuis l'éternité de son Père. Parce que Jean chapitre 6 nous dit que personne ne peut venir si cela ne lui a été donné par le Père. Quand est-ce que cela a été donné à Christ par le Père? C'est depuis l'éternité. C'est pour cela qu'il prie dans sa prière sacerdotale avant d'aller à la croix dans Jean 17. C'est clair, il dit dans le verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Alors ceux qui disent, ah non, mais nous devons prier pour tous les hommes, sans exception, ils ne comprennent pas encore la vérité, parce que Christ lui-même n'a pas prié pour le monde, sans exception. Il a prié pour ceux que le Père lui a donnés dans le monde. Et c'est pour eux qu'il est venu. Ceux-là sont véritablement chrétiens. Il y en a qui sont des disciples d'apparence. Nous lisons de ceux-là dans Jean chapitre 2. Des gens qui venaient auprès du Christ cherchant des miracles ou bien la multiplication de pain et autre chose pour leurs besoins personnels. Il y en a qui cherchent un tel Jésus. Mais dans Jean chapitre 2, nous lisons que Jésus, voyant la foule qui venait auprès de lui dans le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques. Notez bien, pendant cette fête qui représentait Christ comme l'agneau de Dieu et sa mort qui devait mourir à la croix, cette fête de Pâques qui était établie depuis des années, était une photo, était une image du Seigneur Jésus. Mais les gens étaient là pour célébrer la fête sans comprendre, sans constater que c'était une fête qui représentait le Seigneur Jésus. Mais c'est écrit dans le verset 23 de Jean 2, « Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Alors si on avait seulement ce verset, on pouvait imaginer que le Seigneur Jésus, à travers des miracles, sauve des pécheurs. Mais lorsque nous continuons à lire, nous voyons clairement que tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui suivent aujourd'hui les miracles, qui ne sont pas sauvés. Il y en a qui prétendent faire des miracles au nom de Jésus, mais qui ne sont pas à lui. Le Seigneur Jésus lui-même disait ça dans Matthieu chapitre 7. Et le verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de son Père qui est dans les cieux? C'est ainsi que nous devons comparer les Écritures avec les Écritures. Et dans Jean chapitre 6, le Seigneur lui-même a dit pourquoi il est descendu du ciel, surtout dans le verset 38. Et car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis le verset 39 dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et puis il continue, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Notez bien, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. Qu'est-ce que ça prend pour croire en Christ, pour être chrétien? Il faut voir le Fils. Et comment voir le Fils, si ce n'est avec les yeux que l'Esprit de Christ donne aux pécheurs. Alors, lorsque nous revenons maintenant dans ce texte, dans Matthieu 7, beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, cela veut dire qui a reçu les yeux pour voir le Christ, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, comme Dieu dans la chair, et qui croit en lui, ceux-là entreront dans le royaume des cieux. Ceux-là sont ceux que le Père a donné à son Fils depuis l'éternité, pour qui Christ est venu payer leur dette. Matthieu 7 et le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Notez, jamais connus. Ce n'est pas qu'ils les connaissaient jusqu'à un certain moment. Je ne vous ai jamais connus. Cela depuis l'éternité. Il n'était pas parmi ceux que le Père lui a donné. Autrement, il devait les connaître dans ce sens. Connaître comme étant ceux pour qui il est venu et qui devait mourir. Mais il leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prétendre suivre le Christ pour des raisons personnelles, ou bien selon notre intellect personnel, n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est être à Christ, par l'élection de la grâce, c'est d'être à Christ, par sa mort accomplie à la croix. À notre égard, c'est être à Christ par l'appel du Saint-Esprit qui révèle Christ dans le cœur. Ceux-là s'approchent de lui, parce qu'ils sont à Christ et c'est Christ qui les attire. Mais le reste, quelle que soit leur profession, Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 2, nous revenons encore, cette foule qui le suivait voit les miracles qu'il faisait. Mais c'est écrit, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Connaissait dans le sens connaître qu'ils étaient. Et verset 25, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, c'est important de faire cette distinction dès le départ, ici dans Matthieu chapitre 5, parce que ce sermon appartient à ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Et dans ce sermon et ces chapitres qui suivent, le Seigneur Jésus est en train de mettre une différence entre la religion des hommes et ce qui vient de la grâce de Dieu par révélation. Il y a la religion des hommes et puis il y a la révélation de Christ. Et combien est grande la différence. Nous voyons ici prescrit dans ces chapitres et dans ce sermon ce qui distingue un véritable chrétien de quelqu'un qui est simplement de profession. Quant à moi, mon désir, c'est d'être un véritable chrétien et de connaître Christ en vérité par sa grâce. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est mis sur cette montagne. Il est monté et puis il s'est assis et ses disciples s'approchèrent de lui. C'est ainsi que nous lisons dans le verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il faut comprendre que connaître Christ, c'est selon ce que Christ lui-même daigne nous révéler. Si Christ n'ouvre pas la bouche, c'est-à-dire ne révèle pas sa parole en nous, on ne peut jamais le connaître. C'est comme moi, par exemple, si je ne dis rien de ce que je pense et je m'assois dans le silence pendant un certain temps, ceux qui sont autour de moi ne peuvent pas comprendre ou connaître ce que je pense. Je dois ouvrir ma bouche et parler afin que ceux qui sont devant moi comprennent ce qui est dans mon cœur et mes pensées. Et c'est comme ça que nous devons connaître le Christ. Ce n'est pas selon les dires des hommes, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de voix qui parlent de la part de Christ. Mais pour connaître Christ véritablement, être un chrétien, c'est de recevoir de lui sa parole, lui qui est la parole de Dieu. C'est à travers sa parole que nous devons le connaître et non pas la parole d'autrui. Dans Galates chapitre 1, c'est ainsi que l'apôtre Paul s'est désigné chrétien. Il dit que c'est à travers l'évangile qui lui a été annoncé, mais il dit clairement dans Galates 1, le verset 11, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Si tout ce que nous avons compris de Christ est venu de l'homme, selon les enseignements de l'homme, un être humain qui se dit chrétien ou qui se dit pasteur, mais nous n'avons pas reçu la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous suivons simplement les paroles d'un homme. Paul dit dans le verset 12, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et lorsqu'il plut, dans le verset 15, Paul dit, Galates 1, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, pas seulement à moi. Je peux me lever et prêcher Christ aux hommes, et en prêchant aux hommes, je prêche Christ à ces hommes et ces femmes, mais la révélation de Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit. Prenant la parole de Christ et révélant Christ dans le cœur. C'est ainsi que quelqu'un devient chrétien. C'est de la part de Dieu et c'est par la révélation de Christ. Et puis, troisièmement, dans Matthieu 5, le verset 2, c'est écrit, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Nous devons être enseignés de Christ. Voilà le sens du mot doctrine. Il y en a qui imaginent qu'il y a des parties de la Bible qui sont principalement la doctrine, et puis ils disent, oui, mais il y a d'autres parties qui sont la pratique. C'est comme ça que beaucoup commentent aussi sur ce passage que nous sommes en train de commencer à regarder ensemble. Matthieu 5, ils disent, ah, voilà un passage pratique. Mais la pratique est fondée sur la doctrine de Christ. C'est fondé sur ce que la parole nous dit de lui. Autrement, ça serait une fausse pratique. Et plus que cela, je voudrais que vous constatiez, lorsque je lisais ces versets, du verset 3 jusqu'au verset 12, ce n'est pas la pratique qui est enseignée, mais plutôt ce que c'est d'être. C'est d'être un chrétien, c'est d'être, comme le verset 3, pauvre en esprit. Ça, ce n'est pas une pratique, c'est d'être pauvre en esprit. Heureux les affligés. Donc, ce que nous voyons, c'est plutôt les effets de la grâce de Dieu dans les cœurs de ceux qui appartiennent à Dieu. Qui Christ est venu et qui l'attire à lui-même, c'est un état de vivre. Il y a beaucoup qui imaginent que, voilà, encore des lois que nous devons pratiquer. Non. Ici, ce qui est décrit sont des principes de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un est un chrétien, et voilà la question que nous sommes en train d'aborder, donc, celui-là, ou celle-là, sera comme décrit ici, heureux. Heureux, c'est un état. Le mot signifie d'être béni de Dieu. Et nous savons que toute bénédiction spirituelle nous vient de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est lui qui nous a bénis, c'est lui qui nous rend heureux, sachant que le Seigneur Jésus est venu comme notre substitut, payer la dette. Et il a accompli toute la loi et la justice, afin que Dieu soit juste tout en justifiant, déclarant juste chaque pécheur pour qui Christ est le représentant. Nous avons ici aux États-Unis des représentants, mais ça concerne ceux qui sont citoyens des États-Unis. D'autres pays ont leurs représentants. Mais il n'y a pas un représentant humain, dans le sens d'un gouvernement qui représente tous les hommes du monde entier. Et en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, il est le représentant de ce peuple que le Père lui a donné. Bien sûr, le nombre de ces pécheurs se trouve dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il a son peuple de toute nation et de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, comme c'est décrit dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, Qu'est-ce que ces robes blanches représentent? C'est la justice de Dieu accomplie par le Seigneur Jésus-Christ et imputée, mise au compte de ces pécheurs-là. Et c'est écrit des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez, être un chrétien, c'est d'être en Christ et d'avoir toute bénédiction spirituelle en lui, lui étant le représentant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens dans son épître, les rappelait de cela, les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de la rédemption et le chef de l'Église, de ce peuple, de ses véritables disciples. Et nous lisons dans le verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » C'est le même mot que nous avons ici dans Matthieu 5, 3 à 12, répété plusieurs fois, « Heureux, bénis les pauvres en esprit. » Car le royaume des cieux est à eux. Ça ne dit pas qu'ils méritent le royaume des cieux en étant pauvres en esprit, mais être pauvre en esprit représente les caractéristiques de ceux qui sont déjà des enfants du royaume des cieux par la grâce de Dieu. Voilà comment c'est manifesté à travers leur vie. Donc, qui est un chrétien? C'est ce péché-là à qui cette grâce est donnée, cette bénédiction est donnée en Jésus-Christ. Encore dans Éphésiens 1, le verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais notez bien, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, et notez, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas selon le bon plaisir de notre volonté, mais de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Qui est un chrétien? C'est celui qui est heureux. Il est béni par cette grâce de Dieu donnée aux pécheurs en Jésus-Christ. Alors voilà l'introduction de ce sermon donné par le plus grand prédicateur qu'on pouvait jamais écouter. Jésus-Christ lui-même, le prince des prédicateurs. C'est lui le grand prophète de Dieu, désigné ainsi par Dieu le Père, qui est venu dans le monde. Et à travers lui, il est appelé la lumière du monde. C'est dans sa lumière que les pécheurs qu'il est venu sauver reçoivent la lumière pour connaître Dieu en vérité, connaître Christ en vérité et être attiré à lui. Il est la sagesse éternelle. Il était dans le sein de son Père avant même la fondation du monde. Donc, il connaît parfaitement la volonté du Père et il est venu révéler la gloire du Père à ceux qui lui appartiennent. Dieu voulant, nous allons continuer cette étude dans les prochains messages, mais pour ce que nous venons d'entendre, que le Seigneur daigne nous accorder sa grâce pour connaître ce Sauveur, Jésus-Christ.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'Internet www.shrevegrace.org.